La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Bonjour Lola.
Bonjour.
Aujourd'hui nous vous présentons un livre sur le greenwashing, paru au Seuil en 2022, intitulé Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Il est écrit par un collectif de 35 experts sous la direction de Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Tellière. Il est disponible à la médiathèque.
De Bourg-en-Bresse, hein, bien sûr. Et c'est pas toutes les bibliothèques du monde. Hein, non.
Oh, bon, je pense que c'est quand même beaucoup de bibliothèques, mais tu as raison Lola, il faut préciser. Donc la bibliothèque de Bourg, la médiathèque de Bourg. Vaillant, je crois. La quatrième de couverture nous explique que le greenwashing est un verdissement de façade, la récupération d'un discours environnementaliste vidé de sa substance, le déploiement d'innovations aux effets écologiques douteux, de fausses promesses, des illusions rassurantes, des formes d'enfumage qui nous enferment dans des trajectoires insoutenables. Bref, des éco-tartufferies.
C'est quoi ce truc ?
Des éco-tartufferies. Plongeons dans ce livre qui se présente comme un manuel d'autodéfense intellectuelle. Les grosses ficelles de la communication verte. Dans son usage le plus fréquent, le terme greenwashing désigne toute forme de communication fallacieuse ou frauduleuse en ce qui concerne les performances écologiques d'un produit ou d'une entreprise. Depuis près de trois décennies, toutes sortes d'associations, de militants et d'intellectuels tentent d'en dévoiler les recettes. Sans entrer dans le détail, rappelons-nous-en quelques-unes. Il y a d'abord des moyens rhétoriques, comme l'emploi de termes flous évoquant l'écologie.
Éco-friendly, 100% naturel.
D'euphémismes permettant d'atténuer certaines réalités.
Produits phytosanitaires plutôt que pesticides.
Ou d'expressions consistant à associer une notion écologique à un terme ou une activité contestée.
Biocarburant, gaz naturel.
Quitte à créer de véritables oxymores.
Développement durable, écologie industrielle.
Le greenwashing peut aussi passer par des déclarations invérifiables ou de simples promesses permettant de remettre à plus tard les actions concrètes. En association étroite avec ces procédés discursifs, il y a des moyens plus subliminaux, comme des images ou des sons.
Des corps naturels, chants d'oiseaux.
Afin d'associer au produit ou à la firme l'idée de respect de la nature ou d'éco-compatibilité.
McDonald's qui repeint ses enseignes en vert.
Ça, c'est fort. La communication ne passe pas seulement par du discours ou de l'image, mais aussi par des actions qui permettent d'attirer le regard sur ce que l'on veut montrer pour le détourner de ce que l'on veut masquer. Cette captation de l'attention est au cœur de bien des formes de greenwashing. Un procédé très répandu consiste par exemple à mettre en avant un aspect ou une action écologique réelle mais mineure.
On repense l'emballage d'un produit alors que c'est le produit lui-même qui pose problème.
Mmh. Les entreprises peuvent également soutenir des causes environnementales, sponsoriser des associations ou des fondations écologistes, ces dernières servant alors de couverture ou de paravent pour verdir l'image des firmes sans qu'elles aient à revoir leurs pratiques.
Un café ? Un décroissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
Croissance verte. La raison économique peut-elle faire l'économie de la raison ? Par Jacques Mulle et Timothée Parik. S'inscrivant dans la lignée du développement durable,
la croissance verte
est devenue un élément de langage incontournable. Et cette appropriation rapide par les acteurs institutionnels, ainsi que sa réception favorable par les milieux des affaires, invite cependant à examiner le concept de plus près. Dans ce paradigme de croissance verte, l'environnement est perçu comme une simple ressource à mettre au service d'un objectif ultime de croissance économique, qu'il s'agit de poursuivre indéfiniment. La résolution des problèmes environnementaux se voit essentiellement confiée à l'innovation technologique. Tandis que l'action politique doit s'attacher à favoriser celle-ci via un ensemble d'instruments économiques et réglementaires destinés à remédier aux défaillances et imperfections de marché. En somme, rien d'incompatible avec les logiques du capitalisme moderne. Et la croissance continue. Or, précisément, la possibilité de poursuivre la croissance économique tout en réduisant les impacts environnementaux jusqu'à les ramener à un niveau compatible avec les limites écologiques n'est aucunement garantie. Alors que, jusqu'à présent, aucune évidence empirique n'accrédite l'hypothèse selon laquelle un découplage suffisant entre PIB et pression environnementale multiple serait réalisable, qu'est-ce qui pourrait donc bien changer la donne à l'avenir ? Le salut par l'innovation technique ? Selon le discours de la croissance verte, c'est l'innovation technologique qui aurait ce potentiel. Cette vision techno-optimiste se heurte toutefois à un certain nombre d'arguments. Tout d'abord, alors que le pari du découplage nécessite que les progrès technologiques se poursuivent au même rythme et aussi longtemps que la croissance sera poursuivie, ceux-ci s'annoncent au contraire de plus en plus maigres et difficiles à obtenir.
En effet, puisque nous tendons logiquement à cueillir en premier les fruits les plus bas, en tout domaine, les solutions déjà déployées pour contenir l'impact de nos activités sont celles qui étaient les plus efficaces et accessibles économiquement et techniquement.
Il reste donc en général à se tourner vers celles qui sont plus complexes, moins accessibles, moins évidentes à mettre en œuvre. Les gisements d'amélioration s'amenuisent. Et hormis dans de rares cas où surviendraient des ruptures technologiques, lesquelles sont difficilement prévisibles, il faut s'attendre à des gains marginaux, de plus en plus faibles et de plus en plus coûteux. Par ailleurs, à supposer que surviennent des ruptures technologiques, leur diffusion se heurte encore à l'inertie de renouvellement des systèmes techniques existants. Par exemple, la durée de vie d'une centrale thermique est supérieure à 40 ans. Celle d'une automobile est d'environ 15 ans, celle d'un avion de 30 ans, tandis que les équipements de chauffage des bâtiments se renouvellent en moyenne tous les 15-25 ans. C'est dans chaque secteur l'ordre de grandeur du temps nécessaire à une innovation pour se diffuser significativement. Or, cette temporalité déborde l'urgence des enjeux écologiques, et notamment climatiques. D'autre part, il n'est pas rare que les solutions technologiques proposées conduisent davantage à un déplacement ou à une mutation des problèmes initiaux qu'à leur disparition. Par exemple, certaines technologies bas carbone substituent aux émissions de gaz à effet de serre des problèmes et des risques de nature différentes. Déchets radioactifs et risques nucléaires, occupation des sols, atteinte à la biodiversité, extractions minières accrues, modification des paysages, déchets non recyclables, etc. Il ne s'agit pas de nier la pertinence de certaines de ces technologies, mais bien de reconnaître que leur déploiement à l'échelle requise pour satisfaire des niveaux de consommation inchangés ne saurait être qualifié de soutenable. En fin de compte, ce que nous offrent les solutions purement technologiques, c'est souvent un élargissement de l'éventail des nuisances et des risques environnementaux, entre lesquels l'arbitrage devient chaque jour plus délicat, à mesure que se renforce le caractère multidimensionnel, global et systémique de la crise écologique. La dématérialisation et la tertiarisation de l'économie sont souvent invoquées comme solutions pour verdir la croissance. Elles n'offrent quant à elles guère de perspectives. Tout d'abord, une grande partie de nos consommations n'est pas dématérialisable, à commencer par l'alimentation, les bâtiments ou encore les transports. Mais ce n'est pas tout. Les consommations dites immatérielles reposent sur une économie tout à fait matérielle. Déplacement des prestataires et usagers, espaces de mise en relation, bâtiments locaux, outils informatiques et réseaux de communication. Si la dématérialisation de l'économie apparaît comme une impasse pour la croissance verte, ses partisans peuvent chercher à s'en remettre à l'économie circulaire. Dans cette perspective, le découplage entre activités économiques et consommation de ressources pourrait être possible si tous les matériaux nécessaires à la production de nouveaux biens étaient issus du recyclage ou du réemploi de nos déchets. Outre le fait que de multiples processus dissipatifs et irréversibles limitent en pratique le recyclage des ressources,
une économie circulaire en croissance
est une contradiction dans les termes, une impossibilité mathématique. Dans la mesure où, à un instant donné, la quantité de matériaux disponibles pour être recyclés correspond tout au plus au volume d'une demande antérieure, le recyclage ne peut jamais satisfaire l'intégralité d'une demande croissante. À moins de stabiliser ou réduire la demande, le recyclage ne peut que repousser de peu l'épuisement d'une ressource. À considérer l'ensemble de ces éléments, il semble aussi peu plausible de poursuivre la croissance du PIB sans aggraver les dommages environnementaux que de contraindre l'économie à réduire son empreinte environnementale sans compromettre la croissance. Du point de vue de l'urgence environnementale, la croissance verte est un pari collectif extrêmement risqué.
C'est un peu comme sauter d'une falaise en espérant réussir à s'inventer un parachute avant de toucher le sol.
Bon courage. À la manière du développement durable, l'expression « croissance verte » demeure donc pour l'heure un oxymore dans lequel le deuxième terme a pour fonction de désamorcer les critiques légitimes s'adressant au premier. On change les mots pour mieux assurer la permanence des pratiques. Mais croître ou verdir, il faut choisir.
Un café ? Un décroissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaël
et Lola.
La dématérialisation. Revenons-en donc à cette fameuse dématérialisation. Le monde numérique est-il un paradis virtuel ou un bagne industriel ? Célia Isoard, Aurélien Berland. Dans la nouvelle économie, affirme Ronald Reagan en 1988, l'invention humaine rend de plus en plus obsolètes les ressources matérielles. Cette affirmation est fausse.
À poids égal, la fabrication d'une puce de silicone nécessite bien plus d'énergie et de matières premières que celle d'un sèche-cheveux.
Et ne serait-ce qu'en France, l'équipement informatique engloutit aujourd'hui l'équivalent de la production de 6 réacteurs nucléaires. En quoi consiste alors la dématérialisation d'une activité, d'un service, d'une procédure administrative ? Là où il lui suffisait de se rendre dans le commerce ou le service en question, l'usager doit désormais disposer de toutes sortes de machines connectées à un immense réseau. En termes de consommation de ressources et d'énergie, la prestation est infiniment plus matérielle que celle qu'assurait le service incarné par le commerçant ou le fonctionnaire.
Elle n'a pas été dématérialisée, mais automatisée et déshumanisée par les personnes. Les personnes qui s'en chargeaient ont été remplacées par des machines.
En parlant de numérique et non
d'électronique,
de cloud et non de
réseau mondial,
de stockage et de traitement des données, d'intelligence artificielle et non de
supercalculateur,
on occulte
l'insoutenable matérialité du monde numérique.
L'industrie minière et la métallurgie ont toujours été particulièrement dévastatrices sur les plans écologiques et sociaux. Un ordinateur portable contient déjà une vingtaine de métaux différents et un smartphone une soixantaine. Bon nombre sont des terres rares, dont l'extraction est particulièrement polluante. Présentes en très faible concentration, dans des gisements contenant des éléments radioactifs, leur raffinage consomme beaucoup d'eau et génère d'immenses quantités de résidus toxiques. La carte mère et les circuits imprimés d'un ordinateur contiennent également de l'or, de l'argent, du cobalt et du tantal, dont l'exploitation provoque des dégâts irréversibles qui affectent des communautés entières. Au Brésil, en Guyane ou au Suriname, l'industrie aurifère entraîne la destruction de la forêt amazonienne, l'expropriation de ses habitants et la pollution des cours d'eau à l'arsenic et au mercure. Produire un gramme d'or suppose d'extraire, de broyer et de traiter au cyanure une tonne de roche. L'infrastructure numérique est loin de se limiter aux ordinateurs. Le câblage des réseaux nécessite des quantités colossales de cuivre, dont la production entraîne des rejets de dioxyde de soufre, d'arsenic et de cadmium. La production mondiale de cuivre en 2015 était 5 fois plus élevée que la production moyenne sur la période 1956-1965. Et cette croissance est d'autant plus accablante que la quantité d'énergie et de déchets miniers qu'elle nécessite ne cesse d'augmenter du fait de la concentration toujours plus faible de ce métal dans les gisements exploités.
S'il fallait 55 tonnes de minerais pour produire une tonne de cuivre dans les années 1930, il en faut aujourd'hui 125.
L'industrie du papier est certes polluante, mais contrairement aux promesses, l'essor du numérique ne l'a pas fait décroître. Surtout, la production des semi-conducteurs, les puces et autres composants électroniques est bien plus nocive, nécessitant beaucoup d'eau, de substances chimiques et de métaux toxiques. Comme elle est majoritairement localisée en Chine, où la liberté d'expression est presque inexistante, ses conséquences sanitaires n'apparaissent pas dans l'espace public. Enfin, les innombrables supports matériels de l'économie immatérielle, entre guillemets, s'avèrent plus encombrants encore en fin de vie. 2 ans et demi en moyenne pour un smartphone, 3 ans pour un laptop, puisqu'ils constituent les moins recyclables des 57 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques produits chaque année dans le monde. Plus ils sont légers et compacts, et plus il faut de matière et d'énergie pour les produire, et moins ils sont recyclables. On estime que les émissions de gaz à effet de serre induites par le secteur numérique ont dépassé celles du trafic aérien depuis le début des années 2010 et qu'elles augmentent de 6% par an, sans perspective de ralentissement, bien au contraire, en raison du déploiement de la 5G. Pour moitié, elles résultent des terminaux utilisés par les consommateurs, le reste étant dû au réseau et notamment au data center.
Un mail ou une vidéo parcourt en moyenne 15 000 km par voie hertzienne ou câblée.
Et les téraoctets de données produits chaque jour de par le monde ont un destin moins céleste que le suggère l'expression « cloud ». Le data center d'Alès de Google, en Oregon, abrite 100 000 serveurs, occupe une surface équivalente à 11 terrains de football, consomme la même puissance électrique qu'une ville française de 100 000 habitants et stocke près de 400 000 litres de fuel pour pallier une éventuelle coupure de courant. Des data centers de ce type, il y en a des milliers sur la planète, et il y en aura de plus en plus. Car l'essor des technologies de l'information permet de stocker, à toute fin utile, notamment le profilage des clients et des citoyens, des données qu'on n'aurait jamais conservées sinon.
Il suffit de penser à toutes celles que génère un achat en ligne, comparé à un passage au magasin du coin.
En matière de consommation d'énergie, l'envolée du secteur numérique est encore plus préoccupante. En effet, l'ensemble des équipements numériques consomme aujourd'hui entre 10 et 15% de l'électricité mondiale. Mais cette consommation, doublant tous les 10 ans, le numérique pourrait engloutir
50% de l'électricité mondiale en 2030. On veut du green.
On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer,
on veut du
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green.
On cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en plus.
Pour conclure, on peut aborder le greenwashing aussi comme une demande sociale pour rester en zone de confort. En effet, si beaucoup de gens sont désormais conscients et inquiets de l'ampleur de notre destructivité, les remises en cause de nos modes de vie semblent tellement énormes que tout ce qui permet de les ajourner est facilement accueilli, sans recul critique. Envisager
la fin de la voiture individuelle, du smartphone,
ou la redirection de la majorité des activités productives vers les low-tech et les travaux manuels suscite de fortes rebuffades. Il est vrai que l'essor des sociétés industrielles s'est accompagné d'améliorations des conditions de vie.
Soins médicaux de base, salubrité publique, sécurisation des approvisionnements.
Et du déploiement d'un éventail de possibilités technologiques que l'on peut trouver enthousiasmantes. Mais il est clair qu'espérer limiter les bouleversements écologiques en cours, à commencer par le réchauffement climatique, implique de renoncer à certaines de ces possibilités, du moins sous leur forme actuelle. Or, cette perspective semble inenvisageable, même pour certains partisans déclarés de l'écologie. Pourtant, est-il fondamentalement inacceptable
de ne plus manger de fraises en hiver, de ne plus prendre l'avion,
ou de privilégier le métier de paysan à celui de webmaster? Surtout si c'est l'habitabilité même de la planète qui est mise dans la balance. Si ces idées semblent inaudibles dans l'espace public, c'est qu'elles ne bousculent pas simplement des habitudes isolées, mais toute une vision du monde centrée sur le progrès, vue comme un processus linéaire qu'il faudrait accepter ou rejeter en bloc. Dans cette vision, évoquer par exemple un désengagement du numérique pour raisons écologiques, c'est non seulement s'attaquer à quelque chose qui est devenu désirable pour bien des gens, malgré les conséquences ambivalentes de la numérisation du monde, mais c'est également sembler menacer l'ensemble des dispositifs techniques du quotidien, comme si refuser la 5G signifiait de facto renoncer à la radiographie médicale. Plus encore, c'est proposer de rompre avec le moteur des espérances contemporaines, comme si cette forme spécifique de développement techno-scientifique constituait la seule et unique fabrique d'un avenir désirable. Voilà pourquoi le greenwashing répond aussi en quelque sorte à une demande sociale profondément ancrée. Il protège l'idole du progrès dont la destitution provoquerait l'effondrement de bien des illusions constitutives de notre vie moderne. Au-delà, ou aux côtés de cette dimension culturelle, la demande sociale de greenwashing peut être renforcée par un phénomène d'ordre psychosocial, la conjuration du désespoir. Car bien sûr, le déni socialement organisé de la catastrophe est régulièrement fissuré par les percées médiatiques des diagnostics brutaux sur l'ampleur du désastre. Le constat s'impose d'une accélération dans la grande accélération en cours depuis la seconde partie du XXe siècle. La moitié du CO2 émis depuis plus de 200 ans l'a été après le premier rapport du GIEC en 1990, tandis que s'amplifiaient tous les bouleversements globaux, et ce malgré des améliorations technologiques considérables et la mise en œuvre de politiques se disant soucieuses d'environnement. Autrement dit, l'inexorable aggravation de la situation atteste de l'impuissance à réorienter la trajectoire collective. Face à de telles constatations, le greenwashing fonctionne finalement comme un dernier rempart, illusoire et pervers, contre la panique. Que l'on vive toute remise en cause de l'abondance énergétique comme une insupportable castration, que l'on soit enclin à se précipiter sur la première solution apparente pour ne pas sombrer dans l'éco-anxiété, ou que l'on se débatte simplement dans l'obscurité du présent et l'incertitude sur la voie à prendre, le greenwashing offre des solutions psychologiquement acceptables. Bref, les stratégies illusionnistes marchent parce que le monde, tel qu'il est devenu,
pousse à se bercer d'illusions.
Chers auditeurs, merci. Les décroissants tout chauds vous saluent bien. À bientôt.
Et au revoir. Et
à très bientôt. Radio B. À bientôt.
Au revoir.
La croissance verte n'existe pas. N'existe pas.
Alors la réponse est non. La réponse est non. Non. Non.
We will have to change. We will have to change.
Hope is not blah, blah, blah. Blah, blah, blah.